Radio Prague, les informations. Bonjour. Le montant de la dette de l'État tchèque s'élève à près de 50 milliards d'euros. Le général français Stéphane Abrial était en visite en République tchèque. Et puis enfin, inondation, la République tchèque, l'Allemagne et la Pologne vont formuler une demande commune d'aide auprès de l'Union européenne. Le montant de la dette publique de la République tchèque a augmenté de 2,8 milliards d'euros au cours des 6 premiers mois de cette année pour s'élever à la fin du mois de juin à près de 50 milliards d'euros. Ces chiffres, qui avaient déjà été communiqués au début du mois de juillet sur la base de la méthode employée par le Fonds monétaire international, ont été confirmés ce mercredi par le ministère des Finances. Selon les analystes, le montant de cette dette publique devrait représenter 37% du PIB de la République tchèque à la fin de cette année, et ce sans tenir compte des dettes cumulées par les régions et les communes. Le général français Stéphane Abrial, commandeur suprême depuis un an du commandant allié Transformation, était en visite officielle à Prague ce mercredi, où il a notamment rencontré le chef d'état-major de l'armée tchèque, Vlastimil Picek. Le commandement allié Transformation, chargé de superviser la transformation des capacités militaires de l'OTAN, constitue un des deux commandements stratégiques de l'Alliance. À son collègue tchèque, Stéphane Abrial a confié que la nouvelle conception de l'OTAN allait entraîner une réduction du nombre de commandements et du nombre de personnes concourant au fonctionnement de l'Alliance. Le but des changements envisagés est d'aboutir à une structure organisationnelle plus rapide et plus souple. La forme finale de ces changements doit cependant encore être définie dans les prochains mois par les responsables politiques des pays membres de l'OTAN. Le gouvernement a démis Mikhaïl Kotsab de ses fonctions de chargé des droits de l'homme. L'information a été communiquée ce mercredi par le Premier ministre Petr Nečas. Son remplaçant n'a pas encore été désigné. Dans l'entourage du chef du gouvernement, certaines voix ont cependant laissé entendre qu'une autorité chargée de traiter des droits de l'homme et des minorités, de l'égalité des chances entre hommes et femmes ou encore de l'intégration sociale n'était pas forcément nécessaire. La République tchèque, l'Allemagne et la Pologne vont formuler une demande commune d'aide financière des fonds de l'Union européenne afin de financer les travaux nécessaires après les inondations qui ont frappé les trois pays cet été. C'est ce qu'ont annoncé les premiers ministres de la Saxe et de la République tchèque qui se sont rencontrés à Prague mardi. Le montant minimal des dommages pour pouvoir bénéficier des fonds européens est fixé à 840 millions d'euros. En République tchèque, le montant des dégâts causés par la montée des eaux en Bohême du Nord a été estimé à environ 400 millions d'euros, c'est pourquoi les régions frontalières des trois pays entendent présenter une demande d'aide commune. On passe au sport. L'équipe masculine de République tchèque a perdu contre la Biélorussie 3-1 en demi-finale des championnats d'Europe de tennis de table qui se déroule cette semaine à Ostrava en Moravie du Nord. Malgré cette défaite, la République tchèque est assurée de décrocher la médaille de bronze. Dans l'autre demi-finale, l'Allemagne, triple championne d'Europe en titre, a battu la France sur le même score 3-1. On termine avec un mot de météo. C'est un temps nuageux et pluvieux qui règne sur l'ensemble du territoire ce mercredi, jour de la fête des Yolana. Les températures varient entre 13 et 23 degrés pour les maximales. Voilà, c'est la fin de ce bulletin d'information. Quel le plaisir de vous présenter Guillaume Narguet. Tout de suite, les faits événements présentés par Alena Gebertova. Faits événements en République tchèque.
La lutte contre la corruption est l'un des premiers objectifs que s'est fixé le nouveau cabinet de Petr Nečas. Le ministre de l'Intérieur a préparé le projet de stratégie s'y rapportant qui provoque la controverse. Ce sera le premier sujet de notre émission. Nous reviendrons au soutien accordé par la France aux jeunes chercheurs tchèques. Cap finalement sur la ville de Beroun qui accueille récemment un marché de poterie avec participation française. Le ministre tchèque de l'Intérieur, Radek Jan du parti Affaires publiques, a donc présenté à la presse le projet de stratégie de lutte contre la corruption. Le projet, dont la réalisation sera divisée en plusieurs étapes et s'étendrait sur les deux prochaines années, relance le débat sur l'efficacité des mesures anticorruption.
Nous nous hâtons à lancer une stratégie contre la corruption parce qu'il faut arrêter le pillage de cet État, déclare le ministre de l'Intérieur, et envisage de demander que le budget de son ministère en 2012 soit augmenté de 500 millions de couronnes, 19 millions d'euros, afin qu'il puisse récompenser les spécialistes de lutte contre ce fléau.
Policie byla předchozími poslanci učiněna zcela bezzubou. Les anciens députés ont rendu la police complètement inoffensive. Elle ne pouvait pas procéder à des écoutes téléphoniques des personnes soupçonnées de corruption. Et nous savons que toutes les affaires de corruption dénoncées par les journalistes n'ont pu être dévoilées que grâce aux écoutes. Il faut donc réparer ces fautes d'anciens hommes politiques et laisser à la police les mains libres sur le plan législatif.
Parmi les mesures envisagées, il y a donc le retour aux écoutes téléphoniques ou l'introduction des tests de fiabilité pour éprouver la capacité de résistance des employés aux tentatives de corruption. Selon le ministre, la police devrait utiliser beaucoup plus souvent aussi la méthode de faux transfert de biens. Cette opération permet à la police de suivre ceux qui demandent des dessous de table, de leur payer la somme demandée par une personne interposée et de les arrêter aussitôt après la transaction illicite. Le ministère a aussi préparé et mis sur le web un manuel anticorruption pour instruire le public et la police sur les différentes formes de corruption et de lutte contre ces comportements illicites. Le projet a cependant suscité aussi des critiques, dont celle de Václav Láska de l'organisation Transparency International.
Un accent considérable est mis sur la répression. Les mesures de prévention y manquent complètement. Nous estimons qu'il faut tout d'abord assurer une prévention de qualité, et ce n'est qu'après qu'on peut procéder à des mesures de répression. Nous aussi, nous appuyons certaines mesures de répression, mais le programme gouvernemental de lutte contre la corruption ne peut pas reposer uniquement sur la répression.
Et Václav Láska de constater que des mesures de prévention, dont la loi sur les commandes publiques et sur le service public, ne sont mentionnées dans le programme que tout à fait marginalement. Pour manifester son désaccord avec cette stratégie, l'organisation Transparency International a retiré ses représentants du groupe des conseillers du ministre de l'Intérieur. Il semble cependant que les autres partis de la coalition gouvernementale n'entendent pas laisser ce thème explosif uniquement entre les mains du parti Affaires publiques. Le premier ministre Peter Nečas, du parti civique démocrate ODS, souligne que la stratégie de lutte contre la corruption doit être basée sur un consensus.
C'est une opinion qui n'a pas encore été discutée dans le cadre de la coalition. Donc toutes ces choses sont ouvertes et elles feront l'objet d'une discussion. Le projet subira encore toute une série de changements qui seront le résultat d'un compromis de coalition. Je considère la lutte contre la corruption comme la priorité fondamentale de ce gouvernement et je suis convaincu que nous arriverons à nous mettre d'accord pour pouvoir présenter un programme anticorruption fiable.
Aucun parti politique ne manquera de se prononcer sur ce sujet explosif car la lutte contre la corruption est aussi un des thèmes majeurs de la campagne des élections communales et sénatoriales qui auront lieu dans un mois.
Le professeur Jean-Marie Laine, prix Nobel de chimie 1987 et professeur au Collège de France, a présidé mardi la cérémonie de remise des prix de chimie, pharmacie et médecine à de jeunes chercheurs tchèques qui s'est déroulée à l'ambassade de France à Prague. Principal promoteur de cette initiative, il a évoqué pour Radio Prague les débuts de cet important soutien accordé par la France à la recherche tchèque.
Le coup d'envoi a été donné par le fait, en fait, la conjonction de trois choses. D'une part, l'Université Charles m'a donné un doctorat honoris causa. Ensuite, j'étais conseiller scientifique chez Rhône-Poulenc, qui était donc la plus grande entreprise à large éventail de chimie jusqu'à la pharmacie. Et la troisième chose est que, à l'ouverture des frontières, il y avait un très grand risque de voir les jeunes étudiants de ces pays de l'Est s'échapper pour aller à l'Ouest, enfin s'échapper, chercher des meilleures conditions à l'Ouest, et c'était pas bon pour les universités et les institutions d'études supérieures d'Europe centrale. En particulier, comme j'avais reçu ce docteur honoris causa, j'ai invité le directeur des recherches de Rhône-Poulenc à venir avec moi. Ces entreprises étaient aussi intéressées par le fait que dans les laboratoires d'Europe centrale, il y avait beaucoup de composés chimiques qui pouvaient être intéressants pour leur activité biologique. Donc il y avait vraiment des prospections pour essayer d'avoir des accords avec des laboratoires, des universités, pour obtenir des produits, pour les tester, et éventuellement, si les produits se révélaient intéressants du point de vue pharmaceutique, faire un contrat avec le laboratoire, etc. Donc toute cette conjonction de choses, le fait que c'était Prague qui m'avait donné ce docteur honoris causa, d'ailleurs j'étais très content de ça aussi parce que j'étais le premier scientifique. Donc ça s'est fait, le directeur scientifique de Rondepoulin qui était d'accord, nous avons dit voilà, ce que nous allons faire, c'est créer un prix qui couvre à peu près une année de bourse. Et les étudiants qui recevront, les lauréats de ce prix, devront s'engager à rester au moins une année dans leur laboratoire. C'était une façon de leur donner une aide financière pour les faire rester. Alors ça, c'était au début. Il y a eu, je crois, 3 prix au début. D'abord pour l'université Charles. Ensuite, ça s'est étendu, je crois, la deuxième ou troisième année à tout Prague. Et ensuite à toute la République tchèque, à toute la Tchécoslovaquie. Et donc les prix actuels concernent la République tchèque.
Les années 90 ont-elles été difficiles pour la science tchèque ? Le professeur Jean-Marie Lenne se souvient.
La période après l'ouverture a été très très difficile, extrêmement difficile, avec d'une part des salaires misérables, comparés à ce qu'il y avait à l'Ouest évidemment. Et on pouvait bien comprendre que les jeunes tchèques regardaient du côté Ouest pour leur avenir. C'est pour ça d'ailleurs que ces prix, on a essayé de faire un petit peu quelque chose pour qu'ils restent ici, parce que si les jeunes partent, c'est très très mauvais pour la science ici. Donc on a contribué un peu quelque chose, j'espère.
Patrick Maestro, directeur en recherche avancée pour le groupe Rodia, s'interroge pour sa part sur l'intérêt des prix accordés par l'ambassade de France et les entreprises partenaires Rodia, Sanofi Aventis et Pierre Fabre Médicaments.
C'est un intérêt très important dans la mesure où Rodia a pour mission de développer l'innovation pour que le groupe assure une croissance. Et cette innovation se nourrit beaucoup de nos recherches propres, mais aussi de la connaissance des recherches qui sont faites dans le monde académique. Donc ce jury me permet d'avoir des présentations des dernières avancées de la recherche en République tchèque, en chimie.
Et quelle qualité avez-vous trouvé chez les jeunes chercheurs tchèques ?
J'ai trouvé une très bonne qualité d'ensemble, avec en particulier des recherches de fond qui sont de grande qualité, mais également une présentation et une aisance dans la présentation qui est très importante. Et les sujets sont des sujets qui sont au bon niveau par rapport à la compétition internationale.
Est-ce que la sélection a été difficile pour le jury ?
Oui, parce que bien sûr, il y a des différences entre les candidats, mais il y avait au moins 5 candidats qui étaient de très bon niveau. Donc les discussions ont été animées entre les membres du jury.
Vous êtes impliqué dans cette initiative depuis plusieurs années déjà, n'est-ce pas ?
Rodia est impliqué depuis le début, donc depuis 10 ans. À l'époque, on s'appelait Rondepoulin Chimie. Et Rodia a continué, et moi-même, je suis là pour la 7e année en tant que président du jury et pour la remise des récompenses. Et nous considérons que nous continuerons de supporter ce prix tant que les conditions seront réunies pour cela.
Depuis 1997, la ville historique de Beroun, située à une trentaine de kilomètres au sud-ouest de Prague, est célèbre pour sa céramique, organise au mois de septembre le marché de poterie. Magdalena Hrozinkova a assisté à l'édition de cette année tenue les 11 et 12 septembre.
Ils étaient près de 300 à se donner rendez-vous sur la place centrale de Beroun, et des artisans de République tchèque, de Hongrie, d'Allemagne, de Lituanie, de Pologne et de France. Le public est venu en grand nombre, près de 30 000 visiteurs en 12 jours. Facile de trouver le stand français très haut en couleur. Catherine Cotenion-Moiroux, qui vit et travaille près de Montpellier, est la seule céramiste de l'Hexagone qui a exposé au marché.
Au départ, je travaillais uniquement la terre vernissée, donc qui est une technique assez traditionnelle du sud de la France, qui se travaille avec des engobes, une terre rouge avec des engobes. Et avec le temps et puis mes créations nouvelles, c'est vrai que je change assez régulièrement mes dessins. Je m'oriente plus un peu vers un décor de faïence. Je suis entre la terre vernissée et la faïence.
Et pour les dessins, où est-ce que vous vous inspirez?
Alors les dessins, il y a l'inspiration très colorée qui est dans le sud, parce qu'on a aussi beaucoup de couleurs, des arabesques, beaucoup de décorations aussi du sud sont faites à base d'arabesques. Et puis de l'écriture, j'ai toujours aimé la calligraphie, l'écriture. Donc après, c'est un mixte de tout ça, et puis un peu d'Orient. Donc voilà, tout ce mélange, j'ai des origines aussi orientales, arméniennes, donc tout ce mélange fait ce que vous voyez actuellement.
Vous travaillez, vous habitez à Saint-Jean-de-Fosse, c'est ça?
Alors Saint-Jean-de-Fosse, c'est un village de potiers depuis le XVIe siècle. La tradition, je crois que c'est un peu comme Béroun d'ailleurs, tradition terre vernissée. Donc c'est une très belle tradition. Donc les derniers fours de céramique se sont éteints après la Deuxième Guerre mondiale. Et depuis 20 ans maintenant, des ateliers se sont installés de nouveau dans ce village. Donc en ce moment, il y a une dizaine d'ateliers à Saint-Jean-de-Fosse, plus la Maison de la Poterie qui accompagne aussi les potiers dans leur travail. Et puis la création donc d'un espace scénographique sur la céramique qui va être créé en 2011.
Et une dizaine d'ateliers, ce n'est pas un peu difficile de se faire remarquer, chacun a son style?
Non, en fait, au contraire, les gens donc nous sommes dans une région donc autour de Montpellier qui aime beaucoup la céramique. Donc en fait, maintenant les gens viennent même pour Noël, on ouvre, enfin non, c'est en fait plus il y a de potiers et ça attire le monde. Ils viennent pas pour un atelier, ils viennent pour 10 ateliers plus la Maison de la Poterie où il y a encore 10 productions différentes.
Votre atelier, c'est un atelier boutique que l'on peut visiter?
Oui, alors c'est un atelier, j'ai une partie, mon pur atelier, une partie boutique où je décore. Et quand les personnes viennent chez moi, je m'arrête de travailler et je leur présente mon atelier.
Et c'est pour la première fois que vous êtes ici à Béroun?
Alors, à l'étranger tout court, c'est la première fois que je sors mes pièces. Donc je suis très contente d'être ici, c'est un très beau marché et je suis impressionnée par... La population, le nombre de personnes qu'il y a là depuis au moins 8 heures ce matin. C'est surtout en France, c'est pas avant 10 heures et demie que les personnes sortent.
Vous avez pu voir un peu le travail de vos collègues?
Oui, alors c'est vrai que il y a beaucoup de travail de. Bon, très. Si, c'est assez coloré aussi, mais c'est aussi beaucoup de grès. Chez nous, on a aussi cette tradition du grès, qui sont des couleurs plus brunes. Mais bon, là, il y a vraiment, effectivement, vraiment de tout en culinaire. Alors, c'est vrai qu'en France, on a aussi beaucoup de culinaire, mais il y a, dans les marchés de potiers, c'est vrai qu'il y a beaucoup aussi de, bon, je sais pas, peut-être un peu moins de culinaire, plus de création, on va dire, contemporaine.
C'était la céramiste Catherine Cotognon-Moiroux.
Et c'est tout dans ces faits événements en République tchèque. Le programme en français de Radio Prague se poursuit.
Chapitre de l'histoire. Jarka Gisubelova.
Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. 72 ans se sont écoulés le 12 septembre depuis le coup d'État raté opéré en Tchécoslovaquie par Konrad Henlein, leader du parti allemand des Sudètes, le SDP. Un événement qui précède la signature des accords de Munich qui aura lieu moins de 3 semaines plus tard durant la nuit du 29 au 30 septembre 1938. Dans les années 1930, les Allemands des Sudètes représentent environ 30% de la population tchécoslovaque, soit plus de 3 millions de personnes. La victoire électorale du parti allemand des Sudètes aux dernières élections législatives d'avant-guerre organisées en Tchécoslovaquie en mai 1935 a servi de prétexte à Hitler pour réaliser ses projets d'annexion des régions limitrophes de Bohême et de Moravie. Au congrès du SDP tenu en avril 1938 à Karlovy Vary, Enline expose son programme derrière lequel se cachent les préparatifs du rattachement des Sudètes au Reich allemand, à l'instar de ce qui venait de se passer en mars en Autriche. Dans un mémorandum adressé à Hitler, Enline exclut la possibilité d'une coexistence entre Tchèques et Allemands et demande le règlement de la question par le rattachement immédiat des régions frontalières pour que les Allemands des Sudètes, je cite, puissent enfin retourner dans leur pays. Après le coup d'État raté du 12 septembre, la pression augmente. Le 15, Adolf Hitler rencontre à Berchtesgaden Neville Chamberlain pour discuter de ses revendications vis-à-vis de la Tchécoslovaquie. La cession de ces régions est refusée par Prague. Le 21 septembre, après des pressions diplomatiques exercées par la France et la Grande-Bretagne sur le président Edvard Beneš, ce dernier finit par céder. La nuit du 29 au 30 septembre, les accords de Munich sont signés. Le même jour, la Tchécoslovaquie, amputée d'un tiers de son territoire, accepte le diktat, autant sacrifié au nom d'une paix en sursis. Elle ne se livre pas pour autant sans combat. Après une mobilisation partielle des réservistes, le 30 septembre, tous les hommes de moins de 40 ans sont appelés sous le drapeau 10 jours plus tard. Près d'un million de soldats sont stationnés dans les 206 fortifications lourdes édifiées en plus des 9600 fortifications légères le long de la frontière, dénommée la petite ligne Maginot. Or, depuis déjà 1935, des corps de garde sont postés aux frontières. Ils s'appellent les SOS, à ne pas confondre avec le signal de détresse. Il s'agit au contraire de la dénomination en abrégé des corps de garde pour la défense de l'État, Strache Obrané Naroda en tchèque. L'existence de ces corps injustement omise contredit le mythe selon lequel la Tchécoslovaquie a cédé ses régions limitrophes sans avoir tiré un seul coup de fusil, souligne l'historien Karel Straka de l'Institut d'histoire militaire.
Podle příslušného vládního nařízení z října 1936 byla stráž obrany státu předurčena.
Conformément au décret gouvernemental du mois d'octobre 1936, les corps de garde SOS étaient destinés à la défense de la frontière. Il devait garantir l'intégrité de l'État et l'inviolabilité des frontières, à maintenir l'ordre et le calme non seulement dans les régions limitrophes, mais aussi à l'intérieur du pays. La création des bataillons SOS était une réaction à la détérioration de la situation après l'arrivée des nazis au pouvoir en Allemagne en janvier 1933. Autre facteur décisif, le danger venant de la part des unités paramilitaires. Ainsi, à l'automne 1934, le Conseil de sécurité suprême décide la création d'un corps de garde soumis à une organisation unie et destiné à protéger l'intégrité de l'État.
Zbor k ochraně právě té neporušitelnosti a nedotknutelnosti státních hranic.
Les corps de garde SOS n'étaient pas des corps de l'armée. Ses membres étaient des gendarmes et des hommes de la garde fiscale. Karel Straka explique comment ils étaient intégrés dans le système de défense du pays.
Když se jednalo o to, že nemohlo tedy jít o vojensky organizovanou složku,
puisque les corps SOS ne pouvaient pas avoir une structure militaire, le gouvernement a décidé que leur direction serait intégrée dans l'administration du ministère de l'Intérieur. Plus tard, en 1938, la création d'une direction au niveau des autorités régionales a été envisagée. Le nombre de bataillons des gardes pour la protection de l'État atteint le chiffre de 31, mais l'idée de départ était d'en créer encore davantage. À la fin de septembre 1938, les corps de garde SOS étaient forts de près de 30 000 hommes.
Tento sbor stráže obrany státu dosáhl síly téměř 30 000 mužů.
Thank you. La situation des corps de garde pour la défense de l'État n'était pas facile, pour plusieurs raisons. Premièrement, la Tchécoslovaquie faisait face aux pressions des pays occidentaux, lui demandant de tolérer le mouvement nazi, représenté par le parti SDP de Henlein. Après une visite de Lord Runciman venu à Prague pour préparer les jalons de l'annexion décidée à l'avance, le ministère de l'Intérieur appelle les unités SOS à s'abstenir de tout incident. Le 21 septembre 1938, le président Edvard Beneš, contraint d'accepter la première capitulation, donne l'ordre de la démobilisation. De très nombreux membres des corps SOS sont pris en otage et une centaine d'entre eux trouvent la mort. Ceux qui parviennent à s'échapper continuent de combattre dans les unités tchécoslovaques à l'étranger, près de Tobruk et de Sokolov. D'autres sont engagés dans la résistance locale, parmi eux notamment le chef d'état-major de l'insurrection pragoise, František Bartoš.
Notre émission en français est ainsi terminée. Merci de l'avoir suivie. Je vous dis au revoir. Nasledanou.
En su receptor, Radio Praga, emisiones de la radiodifusión checa para el exterior. Radio Praga pone su primera emisión para España a las 8 horas UTC, tiempo universal coordinado, por las frecuencias de 11.600 kHz. A las 14 horas UTC transmitimos para España por los 11.720 kHz. A las 18 y 19 horas UTC los oyentes españoles nos pueden sintonizar por 5.930 kHz. Radio Praga transmite a las 20:30 horas UTC para España y América Latina por los 5.930 kHz. Los oyentes latinoamericanos nos pueden sintonizar a las 23 horas UTC por las frecuencias de 9.440 kHz. A las 0 horas UTC salimos al aire por los 9.445 kHz a través de la repetidora en la Isla Ascensión. A las 0.30 horas UTC los radioescuchas de Centro y Sudamérica nos pueden sintonizar por los 9.790 kHz.